C'est toujours une joie de vous avoir avec nous, amis auditeurs. Merci de nous avoir choisis pour vous accompagner en cet après-midi. Bien sûr, on parle d'un sujet de société, un fléau aussi qui gangrène l'avenir de relationnel entre les personnes. Attendre beaucoup des autres, quand nos attentes deviennent une prison, comme le dit si bien notre coach, notre conseillère Raphaël Dion, qu'on aura le plaisir d'échanger avec elle dans quelques instants. Attendre beaucoup des autres conduit souvent à la déception. Les attentes empêchent les gens de vivre et c'est la meilleure façon d'être malheureux parce que se permettre d'attendre trop d'une personne, c'est attendre quelque chose aussi sur laquelle on a de contrôle. C'est pour cette raison qu'on vous propose ce sujet aujourd'hui. Avec nous en direct, Raphaël Dion, coach en développement personnel, professionnel et thérapeute. Bonjour Raphaël Dion.
Bonjour Wassila.
Comment allez-vous?
Ça va bien et vous?
Ça va très très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, aussi de nous parler de ce sujet sociétal qui est vieux, hein, donc la vieillesse de notre monde. Parler de ce sujet, justement, faudrait le présenter. Un préambule, d'après vous, qu'est-ce qu'une attente? En quoi est-ce un problème d'avoir des attentes des autres ou des choses ou du temps?
Alors, en fait, les attentes, c'est simplement des choses qui nous laissent dans une situation très passive. On est dans quelque chose de l'ordre du handicap, du non-mouvement. On attend quelque chose soit de l'autre, soit d'une entité comme Dieu ou du destin. Et du coup, on n'est plus actif, en fait. On n'est plus acteur de sa propre vie. On est simplement en train d'attendre d'une tierce personne qu'elle réponde à nos attentes ou à notre demande, ou du destin ou de Dieu, que notre vie aille du bon côté ou sur le bon chemin. Donc, en fait, ça fait de nous des gens spectateurs. Et c'est vraiment pas confortable.
Et passif.
Exactement, passif, spectateur. Et c'est vraiment ni confortable ni valorisant, en fait.
Et donc, quelle est la différence entre être dans l'attente et avoir des attentes?
Alors, lorsqu'on est dans l'attente, c'est ce qu'on disait, on n'est plus acteur de sa vie. On met finalement nos décisions, nos actions, nos émotions entre les mains d'autres personnes ou, comme on disait, du destin, de Dieu. Être dans l'attente, c'est ça génère de l'impatience, ça génère de l'anxiété, parfois même de la colère. En fait, ça fait que renforcer un sentiment d'insatisfaction. On n'est plus vraiment libre de ses choix et on devient dépendant, en fait, de ce que veut l'autre. Avoir des attentes, c'est tout aussi complexe, en fait, à gérer émotionnellement, mais cette fois, c'est une personne ou un groupe de personnes précis qui conditionne mon état émotionnel. En fait, en fonction de la réponse de quelqu'un à mes attentes, alors je vais être bien ou je vais être déçue, pas bien, frustrée. Donc, finalement, avoir des attentes, ça contribue le plus souvent à être déçue.
Il n'y a pas ici une forme de manipulation affective de la part de l'un ou de l'autre, enfin celui qui attend peut-être plus que l'autre?
Ben si, effectivement, avoir beaucoup d'attentes sur autrui, c'est déjà être souvent dans une forme de dépendance affective. En fait, on considère que l'autre doit nous apporter sécurité, affect, l'autre doit nous comprendre, l'autre doit nous soutenir, alors qu'en fait, ben, c'est pas un prérequis. C'est quelque chose qu'on est en mesure de faire ou pas, mais c'est certainement pas un prérequis dans une relation.
Un petit enfant, par exemple, qui demande à sa mère de faire telle chose, ou sinon, il va faire des bêtises. Par exemple, ça commence tôt, hein. Donc, c'est une relation aussi qui démarre depuis l'enfance, n'est-ce pas?
Bien sûr. Dès qu'il y a un lien affectif fort et profond, très souvent, ça induit de toute façon des attentes. Dans le cadre parent-enfant, à la limite, c'est un peu plus normal, un peu plus cohérent que des enfants aient des attentes envers leurs parents. Après, faut pas tomber dans le chantage avec l'exemple que vous donniez. Là, on tombe facilement dans le chantage. Donc, c'est important de se mettre d'accord, en fait, de clarifier qu'est-ce qui est OK, ce sur quoi on se met d'accord en termes d'attente. Je peux te donner telle ou telle chose parce que je suis en mesure de le faire. En revanche, pour cette partie, ben c'est non, et être capable de poser une limite aux attentes de ses enfants, c'est aussi vraiment fondamental.
Mmh. Bah, parce que c'est très important cette question, puisque l'enfant d'aujourd'hui, il sera l'homme ou la femme de demain. Et donc, le fait qu'il a grandi satisfait à travers le chantage affectif, eh bien, quand il sera grand ou quand elle sera grande, eh ben, elle va faire la même chose, mais avec autrui. Sauf que autrui, ce n'est pas maman ou papa. Et c'est là où le hic, où l'enfant, enfin où l'adulte qu'il est devenu ou qu'elle est devenue, eh bien, ils vont se retrouver face à des déceptions, malheureusement, et qui vont justement casser la confiance en soi, etc. Donc, c'est important de signaler que ce chantage affectif peut générer des attentes de la part de l'enfant qui vont, en grandissant, devenir un handicap pour la personne.
Exactement. En fait, on ne réalise pas souvent, mais on blâme les autres pour notre propre bonheur ou pour nos échecs. Et ça, c'est lié à ce que vous disiez par rapport à l'enfance. À quel moment est-ce qu'il y a eu des jeux affectifs compliqués, parfois de la manipulation, parfois du chantage, et l'impact que ça a quand on est un adulte. Et du coup, quand on est un adulte, on a tendance à se déresponsabiliser. Finalement, c'est pas ma faute si j'obtiens pas ce que je veux. C'est pas ma faute si je suis pas heureux, si je suis pas satisfait. C'est parce qu'on ne m'a pas donné ce que je mérite ou ce que j'avais envie d'avoir.
Mmh. Et comment prendre du recul, du coup, dans son rapport à l'autre, Raphaël Jean?
Alors, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre que quand on a des attentes, on est complètement dépendant de la façon dont agit notre cercle amical, affectif, peu importe. On dépend des autres parce que finalement, c'est ce qu'on disait, on les a rendus responsables d'une partie de nous qui, en fait, devrait appartenir qu'à nous. Mmh. C'est pas à eux de répondre à ces demandes-là. C'est impossible d'être heureux si on dépend continuellement des autres pour se sentir bien. On n'est jamais serein. Donc, je pense qu'il faut d'abord apprendre à lâcher ces chaînes qui nous emprisonnent. Il y a souvent de la peur derrière. Laisser de côté les attentes. Et ça nous permettra de voir qu'en fait, le bonheur, il est entre nos mains et qu'on est le seul responsable de notre bonheur.
Attendre cette action d'attendre les autres ou les choses ou le temps, est-ce que c'est inné en nous, ça se développe? Quels sont les facteurs qui poussent une personne normalement constituée à attendre quelqu'un? Ça peut être quelqu'un qui est en bonne santé, qui a la capacité de construire plein de choses, mais il attend. Ça se développe comment, cette attente?
Je pense que c'est d'abord lié à une forme de tempérament dans la vie. Il y a des gens qui sont assez actifs, proactifs, qui ont vraiment envie de se donner les moyens, de prendre des risques, et puis bon, quitte à se casser la figure, c'est pas grave, on se relève. Et puis il y a d'autres personnes qui sont un peu plus craintifs, qui ont dû vivre des choses un peu plus compliquées ou qui ont dû développer des peurs et qui, du coup, elles sont quand même beaucoup plus dans l'attente par crainte de prendre un risque, crainte de compter sur soi-même, crainte d'essayer de faire quelque chose et puis finalement d'échouer. Donc, en fait, je pense que c'est d'abord et avant tout une question de tempérament, même s'il y a beaucoup de choses à mettre en place pour dépasser ça.
Je pense aussi que je peux me tromper, la peur, elle y est, ça revient à chaque fois. Donc la peur, elle peut être un facteur aggravant de la situation.
Tout à fait.
Peur.
Donc, tout à fait un facteur aggravant.
Qu'est-ce qu'on peut mettre justement en place pour aller vers la responsabilisation?
Alors, il y a d'abord deux clés qui sont importantes et ensuite quelques petites questions à se poser. Je pense que les clés fondamentales d'abord, c'est un, l'acceptation. Il faut comprendre qu'on est obligé d'accepter les autres comme ils sont et tout le monde ne fonctionne pas comme nous, tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Donc finalement, on doit accepter que nos attentes ne seront pas toujours respectées et qu'on ne répondra pas toujours à notre demande parce que l'autre, il n'est pas fait comme nous, donc il ne comprend pas de façon instinctive ce dont on a besoin. Ça, c'est un premier pas qui est important. Il y a une deuxième clé qui, pour moi, est fondamentale, c'est la formulation. Il y a une phrase qui dit, j'aime beaucoup cette phrase, qui dit « mieux vaut se définir que d'avoir à se défendre ». En fait, plus je vais exprimer précisément mes attentes, mes besoins, plus je vais donner la chance à l'autre d'y répondre favorablement. Et ça, c'est bon pour le relationnel et pour être sécure dans les relations. Mmh. Ensuite, pour vraiment se responsabiliser, il y a 4 petites questions qui sont toujours importantes à se poser. Première question, est-ce que j'ai bien formulé ma demande? Parce que comme je vous disais, souvent on considère que c'est inné, que la personne doit comprendre ce dont on a besoin, ce qui n'est absolument pas le cas. Mmh. Deuxième question, est-ce que mon attente est fondée, légitime? Ça aussi, on peut vraiment se demander si parfois c'est légitime ce dont on a besoin. Qu'est-ce qui me laisse croire que l'autre est obligé d'accéder à ma demande? Parce que finalement, imposer à l'autre ses attentes, c'est le priver d'une part de liberté. Mmh. Il a complètement le droit de dire non, il a lui aussi ses propres besoins, ses propres priorités, ça revient à l'acceptation, ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. Qu'en fait, il faut aussi accepter que les autres ne fonctionnent pas comme nous. Et puis, il y a quand même quelque chose sur lequel, à mon avis, c'est fondamental de revenir, c'est est-ce que c'est bien à l'autre de répondre à mon attente? Finalement, le point important, c'est que on cherche souvent à l'extérieur de nous ce qu'on n'est pas capable de donner à nous-mêmes. On considère que nos besoins de sécurité, d'amour, de liberté, ils sont très légitimes et donc on fait reposer toute la responsabilité de se sentir bien sur l'autre. Mmh. Il faut qu'il comble ce qui nous manque. Mais en fait, avant de se demander qu'est-ce que l'autre peut combler chez moi, il faut d'abord regarder comment vous, vous pouvez y répondre par vous-même autrement. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour répondre à ces demandes-là? Mmh.
Donc, trop d'attentes des autres peut être signe d'égoïsme, parfois, non?
Ça peut être signe d'égoïsme, ou en tout cas, c'est ne pas prendre l'autre suffisamment en considération, je dirais.
Mmh. Se préoccuper uniquement de ce que les autres peuvent nous offrir selon notre vision des choses est très subjectif au lieu de voir ce qu'on peut faire pour nous-mêmes, si j'ai bien compris votre analyse.
Exactement. Mm-hmm. En fait, notre impatience, elle est souvent due au fait que on a peur de pas voir les choses qui sont importantes pour nous arriver. Que ce soit le grand amour, le job qu'on espère avoir, il y a beaucoup de choses. Mmh. Et c'est finalement quand on prend conscience du fait que c'est nous qui sommes aux commandes de notre vie, que la seule chose qui peut influencer le déroulement de notre parcours, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, ben, je crois que c'est là qu'on peut laisser aller les peurs, les doutes, l'impatience pour développer la confiance en soi, même la foi en la vie, pour quelque chose de plus grand, de la spiritualité. Et ça nous permet d'avancer et de se dépasser.
Mmh. En tout cas, vous avez répondu à des questions très complexes. Vous avez, des fois, on a tendance à parler d'autonomie. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot par rapport à l'autonomisation de la personne?
Bien sûr, c'est fondamental. L'autonomie, en fait, c'est comprendre qu'on a déjà en soi ce qu'on tente de chercher à l'extérieur de soi. Mmh. Faut juste apprendre à reconnaître et à cultiver le potentiel qu'on a déjà en nous. C'est ça l'autonomie. C'est j'arrête d'aller chercher à l'extérieur et je cultive le potentiel que j'ai à l'intérieur. C'est en fait changer un prisme.
Vous me donnez une bonne transition parce que en fait je parle très souvent de la réflexion intellectuelle. Beaucoup de gens avaient appris à consommer la réflexion des autres ou des intellectuels qui ont fait des années de académiques, ce qui est valorisant pour eux ou pour leur itinéraire. Ceci dit, on apprend au peuple ou aux gens de penser à travers l'autre. C'est aussi une forme d'attente intellectuelle de l'autre que nous, on n'a pas, ou on pense ne pas pouvoir donner.
Exactement. En fait, on place l'énergie au mauvais endroit. Mmh. On place l'énergie à attendre quelque chose d'autrui ou de la vie, encore une fois, au lieu de créer soi-même l'environnement qu'on a envie de créer, soi-même les idées, l'intellectualisation des choses, comment est-ce qu'on perçoit sa propre vie.
C'est ça.
C'est beaucoup plus difficile, en fait. Donc, on préfère aller attendre ça d'autrui plutôt que se créer nous-mêmes.
Mmh. En tout cas, merci beaucoup Raphaël Dion pour d'avoir accepté notre invitation et surtout répondre à ces questions. Et j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres sujets qui touchent notre société actuelle.
Avec grand plaisir, c'était un plaisir partagé vraiment.
Toute la joie et pour nous, à très bientôt, prenez soin de vous.
À bientôt.
Merci, au revoir.